Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Bienvenue à toutes et à tous sur la radio Nzamba Gatika Kawe au sommaire de l'actualité de ce 1er octobre 2022. L'armée burundaise a délogé des rebelles rwandais de certaines positions qu'ils occupaient dans la Kivira. Des sources militaires révèlent que des armes ont été saisies et qu'un rebelle a été capturé pendant une opération qui a commencé mardi dernier. À suivre également dans ce journal, les accusations de malversation contre l'administratrice de la commune Nyanzara Kamakamba et la suspension de l'administrateur de la commune Nyamiraba en province Bujumbura. Parmi les manquements reprochés à ce dernier figure le détournement des fonds communaux et la violation du code des marchés publics. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi, la synergie des médias RPA, Nzamba et Renaissance revient sur l'arrêt de la chambre d'appel de la Cour de justice de l'EAC sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Attaque contre quatre positions des rebelles rwandais situées dans la forêt de la Kivira, côté Mabayi, au nord-ouest du pays. Selon une source militaire, cette opération de l'armée burundaise a débuté mardi dernier. Un rebelle a été capturé, au moins 10 fusils ont été saisis, selon la même source. Les rebelles délogés appartiendraient au mouvement FDLR et FLN, qualifié de groupe terroriste par le gouvernement rwandais. Plus de détails avec Karine Dussavé.
Les positions des rebelles rwandais FDLR et FLN délogées et détruites étaient dans les localités de Karandura et Kunewe Yumugisha, dans les hauteurs de la vallée de Kaburanwa, dans la commune Mabayi, en province Cibitoke. Les militaires burundais en opération sont ceux du 221e bataillon et du 412e. Les deux bataillons sont en opération dans la Kivira depuis quelque temps, le 221e étant basé à Mutukura, en province Changuzo, tandis que le 412e bataillon étant basé à Lumonge. Les informations que nous détenons des sources de la radio Nzamba Gatika Kawe parmi les militaires burundais indique que ces rebelles ont été la cible des militaires burundais depuis mardi de la semaine en cours. Toutes ces quatre positions ont été détruites et au moins 10 fusils ont été saisis par l'armée burundaise et un rebelle capturé vivant. Nos sources se sont abstenues de révéler le nombre des rebelles tués au cours de ces opérations tout en précisant qu'il n'y a pas eu de dégâts du côté de l'armée. Un des militaires qui faisait partie des militaires en opération nous a confirmé que sur place, ils ont remarqué à plusieurs endroits des traces de sang, ce qui fait penser à la lourde perte chez les rebelles rwandais. Les mêmes sources font savoir que des combats se sont déroulés tout près de la frontière rwando-burundaise, dans les proximités de la zone tampon. Les mêmes sources révèlent que leur commandement a beaucoup apprécié la coopération avec les militaires rwandais dans cette opération, surtout dans l'échange des informations, ce qui a rendu efficace et efficiente l'opération. Après le démantèlement de ces rebelles, les militaires burundais ont érigé une position dans un endroit connu sous le nom de Karandura 2. À la rédaction de la radio Nzamba Gatika Kawe, nous n'avons pas encore eu la version du colonel Floribert Biyeleke, porte-parole de l'armée, pour de plus amples éclaircissements sur les rapportés par les militaires des deux bataillons si haut cités.
Le contingent de l'armée burundaise en République démocratique du Congo est sous le commandement du général de brigade Banyangimbona, surnommé Kilapande depuis mercredi dernier. Il remplace le colonel et défense Balanyikwa qui a été rapatrié pour cause de maladie selon des sources militaires. Ce changement intervient quelques jours après une opération des militaires burundais contre des rebelles burundais dans le sud Kivu vers la fin de la semaine dernière. Une dizaine de militaires burundais y ont péri, au moins 8 autres ont été blessés, selon une source de l'armée burundaise. Pour rappel, un officier de grade de major qui faisait partie de son contingent a été rapatrié et va bientôt passer une semaine dans les cachots du bataillon police militaire à Bujumbura. Des sources militaires révèlent que cet officier est accusé de n'avoir pas bien rempli sa mission, ce qui serait à l'origine des pertes enregistrées par l'armée burundaise au cours de cette opération. Le président n'a jamais déclaré qu'il y a eu tentative de coup d'État contre lui, affirmation du porte-parole du chef de l'État hier vendredi au cours d'une conférence publique des porte-paroles des institutions. Selon Alain Diomède Nzeyimana, les gens ont mal interprété le contenu du discours d'Evariste Ndayishimiye à ce sujet. Ce dernier avait en effet mis en garde début septembre dernier, soit les nommés, des individus qui, selon lui, avaient l'intention de le renverser. Le président Ndayishimiye avait alors déclaré que ces mêmes personnes n'arriveraient jamais à prendre le pouvoir. Mais là, Mugisha, sur les détails.
Ce discours du chef de l'État a été déclaré au stade Ingoma de Gitega alors qu'il procédait à l'ouverture de l'année judiciaire. Évariste Ndayishimiye s'en est pris à un groupe d'hommes qui ont la soif du pouvoir. Le chef de l'État les a qualifiés de machoncho.
Je voulais dire à ces gens qui se croient comme forts, déposez vos armes. Les temps sont révolus, que les machoncho déposent leurs armes. Est-ce qu'un général peut avoir peur d'un coup d'État? Qu'ils viennent m'affronter et je le vaincrai par la grâce de Dieu.
Une semaine après ce discours, le président de la République a destitué son premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Beaucoup s'attendaient à l'ouverture d'un dossier judiciaire sur une tentative de putsch contre le président Évariste Ndayishimiye. La question a été posée à son porte-parole, Alain Diomède Nzeimana, a répondu qu'il y a eu mauvaise interprétation du message du chef de l'État.
Moi-même, je l'ai démenti sur Twitter quand le parti Frodebou a déclaré que le président de la République aurait affirmé qu'il y a des gens qui veulent faire un coup d'État. J'ai indiqué que cela se dit depuis déjà 17 ans. Notre grand-père, le président Nzida, disait que celui qui commencera la guerre, elle commencera chez lui, la verra finir chez lui. C'est ça qu'il voulait dire. Il ne parlait pas qu'il y a un coup d'État en gestation. Il a utilisé le parallélisme dans son discours.
Dans ce message adressé à la magistrature burundaise, Évariste Ndayishimiye avait pourtant invité ce corps de justice à lui prêter main forte pour en finir avec ce groupe d'hommes au pouvoir qui se croient être hors la loi.
Toujours à ce sujet, Jérémy Minani, président du parti RDB, fait remarquer qu'Évariste Ndayishimiye a menti quand il a parlé d'un projet de coup d'État contre son pouvoir. Selon cet opposant, le porte-parole du président vient de confirmer le doute qui existait déjà, car personne n'a été arrêté pour avoir préparé le putsch dont le président Ndayishimiye avait parlé, ce qui prouve qu'il cherchait un prétexte pour écarter ses ennemis, parmi lesquels Alain Guillaume Bunyoni. On écoute Jérémy Minani, président du parti RDB.
Que son porte-parole vienne aujourd'hui nier cette réalité alors que de preuves existent toujours, relève d'une pure réalité, que le pouvoir burundais, surtout M. Évariste Ndayishimiye, n'a aucune vérité. Lorsqu'il manipule les Burundais en disant que voilà, tel ou tel est en train de saboter mon programme, il le dit parce qu'il a un agenda caché. Son agenda caché, pour accuser certains de ses collaborateurs de vouloir le renverser, visait à se débarrasser de certains de ses collaborateurs qui n'étaient plus ses amis. Il voulait se rapprocher, s'entourer de ses propres amis, mais le tout dans le seul intérêt des détenteurs du pouvoir, loin de là l'idée qu'il voulait se débarrasser de ces gens parce que il veut travailler pour les Burundais. En réalité, M. Évariste Ndayishimiye, s'il avait dit la vérité, s'il y avait réellement déjà qui voulait renverser son pouvoir, ils auraient été traduits en justice. C'est le même Évariste Ndayishimiye qui dit chaque jour que ceux qui ont voulu, ceux qui l'accusent d'avoir voulu renverser le pouvoir en 2015, doivent être traduits en justice. C'est lui-même qui continue de dire que voilà, tous les pays qui hébergent ceux qui ont voulu renverser le gouvernement de Feu Pierre Nkurunziza doivent être renvoyés au Burundi pour être jugés. Si ces gens avaient voulu, qu'il y a déjà qui avaient réellement voulu renverser son pouvoir, il n'y a aucun doute qu'ils auraient été traduits en justice. Alors, le fait que son porte-parole nie ses propos signifie que réellement, ce n'était qu'un mensonge. Il n'y a pas des gens qui avaient voulu renverser son pouvoir. Ils voulaient seulement se débarrasser de Bunyoni et de certains de ses collaborateurs qui n'étaient plus des amis personnels de M. Évariste Ndayishimiye. Mais il faut que les Burundais comprennent. Il n'y a pas de différence entre Bunyoni et Ndakugalika. Il n'y a pas de différence entre Évariste Ndayishimiye et Bunyoni et Ndakugalika. Tous ces gens font partie du groupe de l'axe du mal du chef des FDD qui retient le Burundi en otage depuis 2005.
C'était Jérémy Minani, président du parti RDB.
Inzamba.
Suite de cette édition avec cette ordonnance du ministre de l'Intérieur qui suspend de ses fonctions l'administrateur de la commune Nyabiraba en province Bujumbura, Ferdinand Sebananiye est accusé entre autres de malversations économiques, de détournement de fonds de cette commune, d'usurpation de fonctions et de violation du code de marché public. Autre accusation de malversation cette fois-ci en commune Nyandarake de la province Makamba, le conseil communal pointe du doigt l'administratrice de cette commune. Pour exemple, alors que ce conseil communal avait voté un budget destiné à l'achat d'une moto pour le compte de la comptabilité, Marie-Gorette Iramunda, elle, a préféré faire louer sa propre moto pour son service.
Alexandre Niyungeko. L'achat d'une moto d'un coût de 4 millions de francs burundais servant dans le recouvrement des taxes communales a été décidé lors de la deuxième session du conseil communal en septembre 2020, affirmation faite par certains membres du conseil communal de Nyanzarak. Désolé de vous quitter la décision du conseil communal, l'administratrice de cette commune, Marie Goretilangunda, a fait louer sa moto à la commune. C'est de la même source, le carburant et toutes les charges liées aux réparations sont prises en charge par la commune, en plus de 10 000 francs de location quotidienne. Cela a été découvert lors de la session de dimanche dernier, le 25 septembre. Les membres du conseil communal Nyanzarak disent que la commune a déjà enregistré un manque à gagner de plus de 7 millions de francs burundais, rien que pour les frais de location de cette moto, des pertes consécutives à la non-exécution des décisions prises en septembre 2020 par le même conseil. Ils accusent l'administratrice Marie Goretilangunda de complicité avec la commission économique du même conseil dans les malversations des biens de cette commune. Le conseil communal de Nyanzarak dit être choqué par le bras de fer engagé par cette autorité contre ces décisions. La rédaction de la radio Nzamba à Gateka Kawe a appelé au téléphone Marie Goretilangunda pour qu'elle s'exprime sous ces allégations. Son téléphone sonnait, mais elle ne répondait pas.
Actualité dans les camps de réfugiés en Tanzanie, avant de passer au mini-magazine de Club de la Société. L'envoi d'équipes pour s'enquérir de la situation au Burundi ne rassure pas les réfugiés burundais du camp de Douta en Tanzanie. Le premier groupe est déjà revenu, tandis que le deuxième s'apprête à se rendre au pays. Pour les autres réfugiés, tout cela n'a qu'un objectif, les forcer à se rapatrier. On écoute ce témoignage d'un réfugié vivant dans son camp.
La deuxième équipe des réfugiés burundais se prépare déjà à se rendre au pays pour constater ce qu'il y a de la sécurité. Très prochainement, ils vont partir au Burundi. Nous pensons que c'est de la même suite logique des actions du gouvernement tanzanien en collaboration bien sûr avec le pouvoir de Gitega. Leur action de nous faire rentrer par force. Ils vont nous dire que parmi nous, il y a des gens qui sont parlés au Burundi et qu'ils ont vu qu'il y a paix et sécurité et que nous n'avons pas raison de rester ici. Ils vont aller au Burundi alors que la première équipe, qui est déjà ici, continue sa sensibilisation, mais qu'il y a des questions que cette équipe n'arrive pas à répondre. Ils nous disent qu'au Burundi, il n'y a pas vraiment de coups de feu, il y a des gens dormis dans la rue. Et quand on les demande, est-ce que quand vous avez fui le pays, vous avez fui des coups de feu? Ils répondent non. Est-ce que vous avez fui quoi? Des disparitions forcées, des gens qui étaient emprisonnés, tout ça. Et quand on les demande, est-ce que vous avez sillonné des bureaux des services nationaux de renseignement ou vous avez eu la chance d'échanger avec les Mandakure? Ils ont abandonné ces disparitions forcées. Là, ils n'ont pas de réponse. Ils rencontrent une certaine réticence de la part des réfugiés parce que ces gens qui sont là, même au pays, ce sont des gens qui sont très proche du parti au pouvoir. Certains font des membres du parti au pouvoir qui étaient ici pour nous soulever et pour donner des rapports au pouvoir de l'Ukraine.
C'était un réfugié du camp de Douta en Tanzanie. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, il se focalise sur l'arrêt de la chambre d'appel de la Cour de justice de l'IAC sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Le mini-magazine vous est présenté par Mélanie Vassomba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Dans un arrêt qu'elle signale avoir rendu le 25 novembre 2021, la Cour de justice de l'EAC indique que le troisième mandat de Pierre Nkurunziza était illégal. Mais comme le président Nkurunziza est mort et son mandat a expiré, le gouvernement du Burundi évoque une décision sans objet. Nous avons recueilli les réactions d'un juriste et d'un politique que vous allez suivre dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 1er octobre 2022. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Ce vendredi, au cours d'une conférence publique des porte-parole des différentes institutions du Burundi, le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahorwamiye, a eu à répondre sur ce que pense le gouvernement du Burundi de l'arrêt de la Cour de justice de la communauté est-africaine déclarant illégal le troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
Bazo cha kabiri nabajijwe nabajije kibazo kijanye na ya ngingo erutse gufatwa na ya sentare y'ibihugu byo mu Seruko.
La deuxième question qui m'a été posée est en rapport avec la décision prise récemment par le cours de l'EAC. Celui qui a posé cette question a voulu savoir la réaction du gouvernement par rapport à cette question. Je vais vous le dire sans hésitation. Cette décision ne servira presque à rien. Pourquoi? Elle ne servira presque à rien car le mandat contesté de 2015 à 2020 a pris fin. Celui qui était concerné par ce mandat n'est plus. Dieu l'a voulu ainsi. C'est-à-dire que ce procès est sans objet. L'objet du conflit n'est plus. Et si l'objet du conflit n'est plus, ça signifie que le procès est nul et de nul effet.
Sans objet. Ikiburanirwa ntikikiriho. Iyo ikintu kiburanirwa kitakiriho, urumva ko n'ubwo urubanza ari impfagusa.
Kandi le juriste Janvier Bigirimana.
Il s'agit de déclarations qui semblent annier la réalité des choses, notamment des réalités juridiques qui sont évidentes. En ce sens que ces déclarations tendent à dire que c'est un procès qui serait sans issue par le fait que Pierre Nkurunziza n'est plus et par le fait que le troisième mandat de ce dernier a été déjà consommé. Nous devons préciser d'abord qu'il y a un principe de la continuité de l'État en vertu duquel si l'État vient d'être condamné alors que le gouvernement a déjà changé aujourd'hui, cela n'exempte pas le gouvernement actuel et l'État du Burundi à mettre en application la décision de la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est pour cette raison qu'on doit respecter ce principe de la continuité de l'État. Autre précision, c'est que le procès n'avait pas été intenté contre le président Pierre Nkurunziza. Ce n'était pas un procès pénal à l'égard de l'ancien chef d'État burundais Pierre Nkurunziza, raison pour laquelle sa disparition, son décès, n'a aucune espèce d'incidence sur l'issue ou la suite de ce procès, notamment en ce qui concerne sa mise en exécution. Nous devons préciser qu'il s'agit d'une décision qui a constaté la violation de l'accord d'Arusha, la violation de la constitution de la République du Burundi de 2005, ainsi que la violation des dispositions pertinentes du traité de la communauté de l'Est en ce qui concerne la bonne gouvernance, la démocratie et le respect des droits humains. Et il s'agit donc d'une décision qui doit être mise en œuvre pour réparer tous les torts qui ont été causés par le troisième mandat illégal et inconstitutionnel de 2015 de Pierre Nkurunziza. C'est une décision dont la mise en œuvre n'a aucun lien avec un troisième mandat qui est déjà expiré ou avec la survie ou le décès de Pierre Nkurunziza.
Le président du Rassemblement des démocrates burundais, Jérémy Minani, lui, indique qu'il est urgent de mettre en place les institutions légales comme les institutions actuelles sont issues d'un mandat illégal.
Certes, M. Pierre Nkurunziza n'est plus, mais cela ne signifie pas que le jugement rendu par la Cour de la communauté africaine n'a pas de valeur. Parce que ce troisième mandat a créé des conséquences énormes qui vont au-delà de la personne qui a imposé son mandat illégal au peuple burundais. Tout d'abord, il y a des crimes qui ont été commis durant l'imposition de son mandat. Il y a des personnes qui ont été victimes de son mandat, des gens qui s'étaient levés pour s'opposer à cette violation de la loi, et qui ont payé un prix élevé. Il y a ceux qui ont été tués, il y a ceux qui sont toujours portés disparus, il y a des milliers qui sont toujours en prison, il y a des centaines de milliers qui sont toujours en exil, il y a ceux qui ont été dépouillés de leurs biens, il y a ceux qui ont été accusés d'avoir tenté de renverser les institutions, il y a des milliers, des centaines de milliers de victimes de ce troisième mandat illégal. Ces victimes doivent être rétablies dans leurs droits, ils doivent être dédommagés. Ils sont maintenant reconnus comme des victimes d'un mandat qui était illégal et la conséquence directe, c'est qu'ils doivent être rétablis dans leurs droits.
Le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza de 2015 à 2020 a provoqué des assassinats et d'autres violations. Plus de 300 000 Burundais étant toujours à l'exil à cause de son mandat illégal. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société du 1er octobre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
C'était l'émission au cœur de la société.
Comme tous les samedis, terminons par la revue de la presse. Elle est présentée par Jojeni Meya.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Inzamba Gata Kawe. La revue de presse de ce samedi s'ouvre sur le journal Iwacu. Statut des officiers de l'armée. Les mariages intercatégories et binationaux interdits. Titre le journal. Devant l'Assemblée nationale, le ministre burundais de la Défense, Alain Hubert Mutabazi, l'a dit ce mercredi 28 septembre dernier, lors de la présentation du projet de loi portant modification du statut des officiers de la Force de Défense Nationale Burundaise, FDNB. Dans ses propos, je cite, « Il serait dangereux à l'armée qu'un officier entretienne des relations avec un militaire féminin de catégories différentes. Cette dernière va développer un comportement d'insubordination et de mépris envers ses supérieurs de grade inférieur à celui de son mari. » Fin de citation. La deuxième raison serait toujours au ministre, je cite encore, « Certains officiers pourraient user de leurs responsabilités et développer des comportements d'abus et d'exploitation sexuelle. Pourtant, les mariages entre officiers, entre sous-officiers et entre militaires des rangs sont encouragés. » Fait de citation. Les mariages binationaux sont également interdits, selon toujours Alain Hubert Mutabazi. Les raisons qui avancent sont notamment le souci de garder le secret militaire et la confidentialité. Aussi, précise-t-il, un officier ne peut pas se marier à une Burundaise ayant une double nationalité. Mais toutes ces mesures n'ont pas été bien accueillies par tous les parlementaires. Agathon Gwasa du CNL trouve que cela viole l'article 19 de la Constitution. Selon lui, nulle part n'est mentionné qu'il est interdit de se marier à une personne de nationalité étrangère ou de double nationalité. Éducation pour continuer avec SOS Média. Les élèves ont échoué aux épreuves nationales dans les camps des réfugiés de Nyarugusu et Nduta en Tanzanie. Le taux de réussite a été de moins de 30% à l'école fondamentale et 35% au lauréat des humanités. Raison des échecs, selon toujours le journal, ce sont les mauvaises conditions de vie des réfugiés en Tanzanie. Depuis 2 ans, le gouvernement burundais a refusé d'envoyer des épreuves, ce qui a poussé le gouvernement tanzanien et ses partenaires à choisir le test sans le consentement du gouvernement burundais, et le diplôme sera reconnu par la Commission nationale tanzanienne en charge des tests nationaux, NECTA en sigle. Le journal Burundi Echo écrit sur la migration des Burundais en Serbie. Dans ces jours, le mouvement migratoire s'accentue. Selon l'Organisation nationale de lutte contre la criminalité transnationale, ONRT, où est ton frère, la seule journée du 23 septembre dernier, 200 Burundais ont quitté leur nation vers la Serbie. Mais alors, l'organisation du périple n'est pas aussi simple qu'on le pense. Le journal Burundi Echo parle d'une histoire d'un certain sous le pseudonyme de Louis. Il a tout vendu, sa maison, sa voiture et tout le patrimoine qui le liait avec sa terre natale. Objectif, rejoindre l'Europe. Pour ces gens, l'ambition ne s'arrête pas en Serbie. Ils continuent leur voyage vers les pays de l'Occident, dont la Belgique, la Suisse et autres. Ils vont clandestinement en passant dans les forêts avec tous les risques d'y perdre leur vie. Arrivés là, la vie n'est pas facile. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être accueillis dans des centres dorment dans les gares et dans d'autres endroits publics. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se termine cette revue. Vous étiez avec Georges Limenia. Je vous souhaite de passer des meilleurs moments là où vous êtes. Au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Ainsi, chef ce journal. Merci de l'avoir écouté. Excellent week-end à tous. Au revoir.